Bonjour, frères et sœurs. Vous connaissez peut-être des gens qui sont inquiets en voyant tout ce qui se passe dans le monde. Peut-être que c'est votre cas même. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. J'entendais même un commentateur au radio. Ce qui l'inquiétait, c'est qu'à force de polluer notre planète, on va finir un jour par provoquer des épidémies et s'autodétruire en tant que race humaine. Et ça, il avouait que parfois, il y a de la difficulté à dormir même la nuit parce qu'il avait peur de cela. Et ça inquiète beaucoup de gens, le virus corona qui commence à se répandre. Mais ce qui peut inquiéter aussi, c'est les guerres qu'on entend, les menaces de guerre aussi, avec toutes les armes de destruction massive qu'on possède. Mais le fait aussi que la Terre est de plus en plus en mauvais état, dû à la pollution, à la surexploitation des ressources aussi, à l'inéquité dans le monde, bien sûr la maladie, mais aussi les forces de la nature qu'on a de la difficulté à contrôler. Bon, en fait, on n'est pas capable de les contrôler. Il suffit qu'il y ait un ouragan pour que ça produise des grosses vagues et des villes entières peuvent être détruites. Même si on construit des murs pour se protéger d'un tsunami, ça passe par-dessus. Les ouragans, les tremblements de terre font écrouler les bâtisses les plus solides. Demain, on se rend compte qu'on est bien fragile, hein, on est peu de choses. Et beaucoup de gens sont inquiets face à cela. Mais c'est pas nouveau, il y en a eu toujours de ces grandes menaces face à l'humanité. Mais ceux qui croient en la parole de Dieu ne sombrent pas dans le désespoir et dans la terreur. Et un passage même comme celui que Timothée nous lisait ce matin dans Ésaïe 45, où on voit que finalement Dieu ne perd jamais le contrôle. Les gens se demandent, mais où était Dieu quand il y a eu un tremblement de terre? Où était Dieu là quand dans toute cette maladie qui a ravagé? Mais Dieu était là. C'est toujours la volonté de Dieu qui se passe sur la terre. Comme on lit dans Ésaïe 45, « Je suis l'Éternel, je forme la lumière et je crée les ténèbres, je réalise la paix. » Et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. On a chanté ce matin que Jésus est venu apporter la lumière. Il est le roi. Mais malheureusement, ce n'est pas tous qui acceptent cette lumière-là. Et il y a beaucoup de ténèbres encore dans ce monde. Mais tout cela n'échappe pas au contrôle de Dieu. Et on va voir ce grand contraste ce matin dans une prophétie que Jésus annonce. Et qui peut en ébranler quelques-uns. Et ses disciples étaient stupéfaits aussi d'entendre les déclarations de Jésus. Mais il se veut aussi rassurant, mais aussi il y a des avertissements solennels que Jésus fait. Et ça s'adresse encore à nous aujourd'hui. Donc prions avant de lire ce passage. Seigneur Dieu, c'est devant toi que nous sommes assemblés. Fais-nous prendre conscience davantage même de ta présence et que tu nous vois, tu vois même nos cœurs, nous tous qui sommes présents. Et tu peux percer à jour nos sentiments, nos pensées les plus profondes. Même tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et par ton Saint-Esprit, touche nos cœurs. Viens remplir de ton esprit tous ceux qui sont tes enfants. Et viens toucher ceux qui ne te connaissent pas encore comme leur sauveur. Mais que ta volonté soit faite. Et comme on l'a chanté même, qu'on souhaite que ta gloire remplisse toute la terre, que ta gloire même se manifeste dans nos vies. Et pour cela, on a besoin de ton Saint-Esprit pour nous transformer à la ressemblance de ton Fils Jésus. Donc, parle-nous ce matin par ce passage dans l'Évangile de Luc. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Je vous invite à tourner dans Luc 21. Nous étudions l'Évangile de Luc à chaque semaine, presque à chaque semaine. Et ce matin, nous arrivons à un passage où Jésus fait une prophétie. Luc 21, à partir du verset 5, nous allons lire 5 à 36. Donc, l'Évangile de Luc, chapitre 21, pardon, à partir du verset 5. Comme quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'objets à porter en offrande, Jésus dit : Les jours viendront. Ou de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe annonçant ces événements? » Jésus répondit, « Prenez garde d'être séduits, car beaucoup viendront sous mon nom et ils diront, « C'est moi! » Le temps est proche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, de désordre, ne vous effrayez pas. Car cela doit arriver, premièrement. mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et par endroits, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, et on vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois, devant les gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête, et par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre, et une angoisse des nations qui ne sauront que faire du bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous, levez la tête, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Une grande prophétie, il y a beaucoup de détails dans cette prophétie-là. Et on doit avouer qu'il y a des choses plus difficiles à interpréter et il existe plusieurs interprétations. Je vais vous partager ce matin le fruit de mes recherches et de ce que je crois être une bonne interprétation. Mais si pour un détail ou pour un autre, vous avez une autre interprétation, c'est correct. La seule vérité, finalement, c'est ce que Jésus a dit. Nous, on n'est pas infaillibles dans notre interprétation. Mais les principes qui se dégagent de cela, l'essentiel que Jésus veut qu'on se souvienne, ça, on est tous d'accord. Et le point, finalement, culminant, c'est qu'il veut qu'on veille. Qu'on soit sur nos gardes, qu'on prie, qu'on soit actif finalement en attendant ce jour-là. Il nous avertit à l'avance de ce qui s'en vient pour qu'on soit prêt. Et en même temps pour qu'on soit sécurisé dans un sens. Et je vous invite à regarder dans quatre étapes qui, selon moi, sont décrites ici dans Luc. Une première Étape qui est la période avant la destruction de Jérusalem. Donc, la période des premiers disciples de Jésus, ceux que Jésus va envoyer évangéliser. Ensuite, un événement marquant dans l'histoire qui est la destruction de Jérusalem. Ensuite, la période qu'on pourrait dire la période des nations, ou les temps des nations. Et l'événement dont Jésus parle aussi vers la fin, le retour de Jésus, le retour du Fils de l'homme sur des nuées avec puissance. Le retour glorieux de Jésus qui va marquer l'arrivée finale du royaume de Dieu. Puis finalement, comme cinquième point, une exhortation solennelle à veiller, à persévérer. Donc, comment ce discours-là commence de Jésus? Bien, on se souvient, ça fait déjà quelques passages qu'on étudie, que Jésus se trouve dans le temple. Et il est arrivé au temple. Il est arrivé à Jérusalem sur un âne. Et il a été accueilli comme le roi Messie. Et Jésus s'est dirigé au temple et il a enseigné à tous les jours. Ce qu'il enseigne, par contre, ce n'est pas pour soulever une révolte contre l'Empire romain. Il ne se présente pas comme le libérateur, le Messie attendu qui allait être un roi pour les délivrer de l'oppression de l'Empire romain. Il se présente plutôt comme celui qui apporte la bonne nouvelle du salut pour tous ceux qui croient en lui, qui croient en ce qu'il va accomplir quelques jours par la suite, c'est-à-dire mourir pour son peuple. Donc, il se présente vraiment comme le prophète, l'agneau de Dieu, celui qui vient sauver les hommes de leurs péchés, et il invite à se repentir. Donc, les gens sont stupéfaits d'entendre ce message inattendu. Mais comme il parle avec autorité aussi, il s'attire la haine des chefs religieux, les pharisiens, les scribes. Les sadducéens, eux-mêmes, vont le mettre au défi. Mais tous l'écoutent avec attention. Et j'imagine que lorsque les disciples lui posent la question par rapport à, ou donnent la remarque par rapport au temple, on apprend dans Matthieu et dans Marc que c'est au sortir du temple. Peut-être qu'ils sont déjà même à une certaine distance et ils peuvent contempler la splendeur du temple. Il s'agit à cette époque-là, c'est le deuxième temple. Le premier avait été construit par Salomon, qui avait suivi les plans de David. Mais on sait que quelques siècles plus tard, malheureusement, à cause de l'infidélité du peuple d'Israël, le temple avait été détruit. Jérusalem avait été détruit. Ils avaient été emportés en captivité à Babylone. Pendant un certain temps, mais à leur retour, ils avaient pu le reconstruire. Reconstruire les murailles, reconstruire la ville. Mais ce temple-là, en plus, avait subi quelques dommages à travers les années. Il avait déjà été pillé aussi. Mais Hérode, le Grand, avait apporté sa contribution. Ça semblait être d'une bonne intention, parce qu'il voulait honorer le Dieu d'Israël qui avait permis qu'il soit roi sur ce territoire-là. Et il avait entrepris des grands travaux de rénovation sur le temple. Et même, selon les historiens, même Flavius Joseph l'a même contemplé, lui, de ses yeux, et plusieurs l'ont décrit comme étant grandiose. Et les dimensions sont finalement un temple encore plus grand, lorsqu'on en inclut le parvis, là. C'est encore plus grand même qu'à l'époque de Salomon. Très impressionnant, d'une grande beauté. Même, je pense que c'est Eusèbe qui dit, « Si vous n'avez pas vu Jérusalem dans toute sa beauté, avec le temple en son centre, vous n'avez jamais vu une ville splendide. » C'était comme la merveille du monde. Et on apprend, selon les descriptions, que c'était bâti en pierre blanche. Il y avait des blocs qui étaient très grands, là, mais d'un blanc comme immaculé. Et les grandes parties étaient recouvertes d'or. Et on a des descriptions que lorsque le soleil se levait puis frappait sur le parvis, sur le temple, ça réfléchissait, c'était d'une grande splendeur. Et de loin, on aurait dit que c'était comme une montagne blanche et or. Et en plus, les gens riches, comme on l'a vu dans la semaine passée, dans le passage, donnaient des offrandes généreuses. Et certains avaient donné de grandes offrandes qui étaient sous forme de bijoux artistiques. Je pense qu'un autre Hérode avait donné comme une vigne en or qui était accrochée sur un des murs. Donc, c'était d'une grande splendeur. Et les dimensions étaient énormes aussi. Donc, il semble que lorsque, en tant qu'être humain, on se trouvait dans la place, là, on avait l'impression d'être très petit. Ça donnait vraiment l'impression que le Dieu qui est adoré là est infiniment plus grand que les petits humains que nous sommes. Donc, les disciples en parlent. Ils ne peuvent pas s'empêcher, finalement, de vanter la beauté du temple. Ils parlent de... que le temple est orné de belles pierres et d'objets. Et c'est là que Jésus leur révèle que ce temple, finalement, sera complètement détruit. Je ne sais pas si on n'a pas le rapport de toutes les paroles que Jésus leur a dit, mais peut-être qu'il leur disait « N'y attachez pas trop votre cœur, là, parce qu'il va venir bientôt là, que le temple sera complètement détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. » Et c'est sûr que ça provoque l'interrogation des disciples. Comment ça se fait? C'est le centre du culte du peuple d'Israël, du culte à l'Éternel. Comment Jésus peut dire que ça va être détruit? Donc, il demande quand est-ce que ça va arriver? Et quel va être le signe? Comment on va savoir que c'est sur le point d'arriver là? Quel va être le signe de cet événement-là? Et à la question « quand? », je crois que Jésus finit par y répondre directement au verset 32 en disant « En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point avant que tout cela n'arrive. » Et effectivement, c'est arrivé. Moins de 40 ans après, donc moins de ce que la Bible considère être une génération, le temple a été détruit. Jérusalem a été détruite. Et plusieurs historiens en font le rapport. Ils s'étaient soulevés contre Rome, mais Jérusalem a été investie par les Romains qui ont complètement tout détruit. Mais Jésus sait aussi ce que les disciples ont en tête lorsqu'ils posent cette question-là. Parce qu'eux, ils sont sûrs que si le temple est détruit, finalement, c'est la fin du monde. Parce que Dieu est censé installer son royaume, où Israël a la domination sur tous les peuples avec le Messie comme roi. Si le temple est détruit, ça veut dire que c'est un grand cataclysme, là, c'est la fin du monde qu'on connaît. Mais Jésus les avertit, non, ce ne sera pas la fin du monde. La manière dont la prophétie de Jésus est présentée dans Matthieu et dans Marc, c'est un peu flou, parce que Jésus parle des événements de la destruction du temple et de la fin des temps, comme d'une manière superposée. Puis c'est difficile de distinguer, mais c'est à la manière des prophéties dans l'Ancien Testament, où très souvent, les prophètes parlaient d'un événement qui était sur le point d'arriver, et en même temps, ils utilisaient des mots qui faisaient référence au grand cataclysme de la fin des temps. Puis dans Marc et dans Matthieu, c'est un peu ce langage-là. Mais ici, dans Luc, je ne sais pas si c'est le style de Luc, mais qui rapporte les paroles de Jésus, mais d'une manière plus clairement chronologique. Donc, la distinction entre les deux événements est plus claire. La destruction de Jérusalem n'est pas la fin du monde. Ben, il va peut-être y en avoir une autre à la fin des temps, mais il y en a une première sur le point d'arriver qui ne sera pas la fin des temps. Et Jésus parle de beaucoup d'autres choses dans cette prophétie-là qui doivent survenir. Et il dit pendant cette génération-là, que les disciples qui l'entendent prononcer ces mots-là vont voir. Mais bien sûr, ça n'inclut pas son retour. Ça serait étonnant que Jésus aurait dit « Je vais revenir pendant cette génération-là », alors qu'il a dit lui-même que seul le Père connaît le moment où il va revenir. Donc, il ne parlait pas de son retour, mais il parlait de tous les signes qui ont tous commencé à arriver du temps des premiers disciples et qui continuent jusqu'à aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux. Et Jésus les avertit de ce qui va leur arriver dans cette période-là, avant le moment de la destruction de Jérusalem. Premièrement, il leur dit, il va venir de faux Christ. Et ils vont séduire les gens. Ils prenaient garde d'être séduits. Ils vont se passer pour moi. Ils vont se faire passer pour moi. Ils vont dire, je suis Jésus. Ou je suis le Christ, je suis le Messie. Et on sait que c'est après que Jésus soit remonté au ciel. Et on sait dans l'histoire qu'il y en a eu plusieurs. Même, vous avez juste à faire une petite recherche sur Wikipédia, là, ceux qui ont prétendu être Jésus. Et juste dans les dernières années, là, la liste est très longue. Soit que les gens vont dire « Je suis le vrai Messie », le Jésus qui est venu il y a 2000 ans, ce n'était pas le vrai. Ou plusieurs vont prétendre être la réincarnation de Jésus, ou qu'ils sont justement le Fils de l'homme revenu, et qu'il faut les adorer. La liste est longue et ils attirent des fidèles. Ils peuvent acheter des grandes propriétés et faire comme une commune et vivre de cela. Mais Jésus, il les avertit. Il y en a qui vont faire cela. Ils vont se faire passer pour moi. Ne les suivez pas. Finalement, vous n'avez même pas... Jésus ne donne même pas de critères pour essayer d'évaluer est-ce que c'est vraiment moi ou pas. Il le dit en partant, c'est sûr à 100%, ce n'est pas moi. Le jour où le Fils de l'homme va revenir, on ne se posera pas la question, on ne sera pas en train d'évaluer si c'est lui ou si ce n'est pas lui. Là. Tout le monde va le savoir, tous les genoux vont plier devant lui. et ça va être accompagné de grands cataclysmes. Et c'est ce que Jésus avait déjà dit d'ailleurs au chapitre 17. Des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. C'est un désir qu'on a de voir Jésus, mais malheureusement, les manipulateurs utilisent cela pour nous séduire. Mais vous ne le verrez pas. Et on vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez même pas. N'allez même pas voir ce qu'ils disent, de peur d'être séduit. Donc, ça s'est sûrement passé du temps des apôtres, que des faux Christ sont survenus. Et ça continue de se passer, finalement. Des gens qui se font passer pour Christ. Si le diable lui-même se fait passer pour un ange de lumière, ses serviteurs, c'est sûr, se font passer pour des serviteurs de Dieu. Jésus nous dit aussi qu'il dit à ses disciples qu'il y aura des événements inquiétants. Vous allez entendre parler de guerre, des désordres, des tremblements de terre, des pestes. Même dans la catégorie peste, on comprend des maladies mortelles, contagieuses, des épidémies. Là. C'est même ce qu'on entend parler aujourd'hui. Des phénomènes terribles sur la terre et dans le ciel. Des choses qui vont vous faire poser la question, est-ce que la fin arrive? Mais vous ne devrez pas conclure que c'est la fin des temps. Finalement, on doit comprendre que ce sont tous des phénomènes qui nous rappellent, tous les malheurs qui se produisent, qui nous rappellent que Dieu demeure le juge des nations et que le monde, finalement, est soumis au jugement de Dieu et que ce qui attend le monde, c'est de passer en jugement. Et chaque fois qu'il y a un cataclysme, il ne faut pas penser que ceux qui ont péri sont plus coupables que d'autres, mais ça nous rappelle qu'un jour, le monde entier va passer au jugement de Dieu. Et c'est à chaque fois des signes que le jugement final s'en vient. Mais Jésus nous avertit, nous ne devons pas conclure par là que la fin est arrivée. C'est vrai, plusieurs ont noté que ça semble s'intensifier dans les dernières années ou dans les dernières décennies. Plus de guerres, même on a noté dans les 300 dernières années, en Europe, il y a eu environ 300 guerres, juste en Europe. Donc, ça veut dire en moyenne une guerre par année. Bon, je ne sais pas si c'est plus que dans le passé. Je ne sais pas. Mais plusieurs notent qu'il semble y avoir une intensification, plus de tremblements de terre, plus de malheurs. Ben, c'est peut-être normal que ça s'intensifie à mesure qu'on approche de la fin des temps. Il faut faire attention de ne pas conclure que la fin arrive là. Jésus nous dit, ce n'est pas encore la fin. Avant cela, vous aurez une période, une mission à accomplir sur cette terre. Il s'adresse d'abord à ses disciples en leur disant, avant cela, vous serez persécutés. Finalement, vous serez saisis, envoyés en prison, livrés aux synagogues. Donc, je pense qu'il désigne directement la période qu'on lit dans le livre des Actes, qui va suivre l'Évangile de Luc, où les chrétiens ils vivent en paix et sont heureux à Jérusalem, mais à cause de la persécution, ils sont dispersés et partout où ils vont. Finalement, ils annoncent l'Évangile et des églises sont implantées, mais ils sont persécutés systématiquement par les Juifs. Dans tous les coins où ils vont, là, finalement, ils sont livrés aux synagogues et les Juifs les livrent même aux autorités, aux gouverneurs. Non seulement les Juifs refusent d'entendre l'Évangile, mais ils se battent contre l'Évangile. Ils ne veulent pas que les autres le croient. Donc, ça semble vraiment être une indication de la période avant la destruction du Temple. Parce qu'à partir de la destruction du Temple, la destruction de Jérusalem, en l'an 70, les synagogues ont perdu pas mal leur autorité dans l'Empire romain. Et le Nouveau Testament présente effectivement beaucoup de chrétiens qui ont été emprisonnés, mis à mort, livrés même par leur propre famille, par leurs amis, haïs de tous d'une haine qui est presque inexplicable. Mais Jésus les a avertis, c'est parce que vous serez mes serviteurs, c'est à cause de moi, à cause de mon nom qu'ils vont vous haïr. Ne soyez pas surpris. Mais Jésus annonce cette persécution-là que vous allez subir, ça sera à chaque fois des occasions pour témoigner de moi. Donc finalement, la persécution que vous allez subir va servir à l'évangélisation. Si l'Église a pu se répandre dans l'Empire romain et dans toutes les villes, c'est parce qu'ils ont d'abord été persécutés à Jérusalem. C'est parce que Paul se trouvait en prison que tout à coup, ça donnait la flamme aux chrétiens qui savaient cela. Il y avait un zèle pour évangéliser. Donc, Dieu a utilisé finalement tous ces malheurs-là pour promouvoir, annoncer l'Évangile et sauver des âmes. Et effectivement, le témoignage des disciples rapporté dans les Actes est très, très étonnant. Mais Jésus avait dit même, « Ne vous inquiétez pas lorsque vous serez saisis, vous devrez passer en cour, dans le tribunal. Ne passez pas tout votre temps à essayer de préparer le discours pour votre défense. Je vais même vous donner les mots à prononcer. » Il avait déjà dit plus tôt dans l'Évangile que par son Saint-Esprit, il allait aller au secours de ceux qui sont injustement accusés pour confondre même ceux qui les accusent. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'ils sont épargnés. Plusieurs sont morts, mais les déclarations qu'ils font sont très étonnantes. On pense au discours d'Étienne, qui présente l'Évangile de manière claire. Il finit quand même par mourir lapidé. Mais ça a été une grande occasion d'annoncer l'Évangile. Et même son discours sert encore aujourd'hui à annoncer l'Évangile. Donc, c'est vraiment une démonstration de la puissance de Dieu. Jésus l'avait dit dans Luc 12, « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Ce qui est étonnant, c'est la parole suivante. Il dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Et au verset 18, il dit, « Mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. » Est-ce qu'il y a comme une petite contradiction aussi? Vous allez être emprisonnés, livrés. Plusieurs vont mourir. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Je comprends par là, moi, que ce que Jésus dit, c'est que finalement, vous ne sortirez jamais de la main de Dieu qui veut vous protéger. Et tant que le jour de votre mort ne sera pas arrivé, vous ne mourrez pas. Finalement, il n'y a rien qui va échapper au contrôle de Dieu. Et ça va tout être pour vous conduire au salut. Par votre persévérance, même dans cette persécution-là, vous sauvegarderez vos âmes. Dieu va vous protéger. Il est fidèle. Il ne va jamais vous abandonner, même dans le fond de la prison, même la corde au cou ou sous le jet des pierres, Dieu va être là. Et finalement, il va vous conduire à la persévérance jusqu'à la fin pour sauver vos âmes. C'est dans ce sens-là, finalement, qu'il ne se perdra aucun cheveu de la tête. Et on l'a vu lorsque même Pierre était en prison et il a été libéré de manière miraculeuse. Paul, qui a fait naufrage, aurait dû mourir, mais il a été sauvé. Combien de fois que Paul aurait dû mourir, même lapidé ou fouetté, puis Dieu permettait qu'il survive. Donc, Dieu a protégé tous ses disciples sans nécessairement les épargner de la persécution. C'est un contraste, là, mais Dieu nous protège sans nous épargner des épreuves que l'on vit. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on sait que même les épreuves, même les malheurs qui surviennent dans notre vie ne sortent pas du contrôle de Dieu. Dieu demeure souverain dans tout cela. C'est rassurant, ça. Et c'est rassurant que même les pires épreuves qui peuvent sembler à nos yeux comme à 100% mauvaises sont pour notre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comment ça y concourt? C'est que ça contribue dans le plan que Dieu a pour notre vie à nous amener au salut, finalement. Et la dernière étape, c'est la mort. Ils doivent persévérer jusqu'à la fin. Donc, dans un sens, même la mort n'est pas montrée comme une défaite. Jamais. Et c'est pour le serviteur de Dieu, c'est la ligne d'arrivée, finalement. C'est la victoire. C'est le prix qui est remporté. Et c'est le début d'une nouvelle vie, d'une vie éternelle. Et celui qui croit vraiment en Dieu est conscient que, même si Dieu permet la mort, ça n'a pas échappé à son contrôle. Et finalement, c'est un bien. La mort, mais un gain, même, dit Paul. Et c'est sûr que l'avertissement s'adressait aux disciples de Jésus qui allaient vivre cela. On le voit dans le livre des Actes. Mais c'est sûr qu'on transpose ça directement à nous. Là. En tant que disciples de Jésus, c'est possible qu'on ait à vivre la persécution. Pas tous les chrétiens vivent la persécution, on s'entend. Il y a des chrétiens dans certains pays qui sont livrés en prison et qui sont mis à mort. Ici, en comparaison, on pourrait dire qu'on est pas mal épargné. On est en paix. Et il y a eu des périodes où l'Église était en paix. Même dans le livre des Actes, on le lit. Et c'est Dieu qui permet cela. Pas parce qu'on est meilleur que d'autres. C'est Dieu qui permet qu'un chrétien puisse vivre un certain confort, une paix, et un autre va souffrir pour son nom. Mais Dieu a des plans différents pour chacun de nous. Mais c'est clair que dans toute la période de l'Église, depuis 2000 ans, il y a toujours eu des chrétiens qui ont souffert de la persécution. Et on ne doit pas s'en surprendre. Pierre dit dans sa première épître, au chapitre 4, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Pierre était là quand Jésus a prononcé ces paroles-là près du temple. Il dit, « Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. » Parce que ça veut dire que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors c'est tout un honneur même de souffrir pour Jésus, et c'est en même temps une confirmation qu'on est vraiment un enfant de Dieu quand on souffre pour le nom de Jésus. Quand Satan nous attaque, là, c'est parce qu'il voit qu'on est un enfant de Dieu. Une chose à faire attention, par contre, à ne pas transposer directement, c'est lorsque Jésus dit « Ne préparez pas votre défense, je vais vous fournir les mots qu'il faut. » C'est vrai que Jésus va nous aider dans toutes circonstances à nous défendre. C'est lui qui nous inspire des bons mots pour parler. Et plusieurs d'entre vous, vous avez déjà vécu l'expérience lorsque vous annoncez l'Évangile. Les mots vont couler parfois sans que vous l'ayez préparé. Mais on est quand même invité à préparer une défense de notre foi. Donc, ce n'est pas exactement la même situation que les premiers disciples. Et ce n'est pas le même contexte. On lit dans 1 Pierre 3, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre. » C'est vraiment le même verbe. Là. C'est ça donnait le mot « apologétique ». D'avoir une défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur, avec respect, ayant une bonne conscience, afin que là, même où on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. En fait, ce n'est pas pour se protéger de l'injustice, mais c'est une manière de défendre Christ, finalement. On veut présenter l'Évangile dans toute situation, à tous ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous. Donc, on comprend que la période où l'Église s'est répandue dans l'Empire romain, la persécution était principalement causée par les Juifs. Ils s'étaient livrés dans les synagogues, ils sont allés même jusqu'à Rome, même les Juifs s'opposaient au discours de Paul. Et ça devrait être Ça menait finalement, ça se termine cette période-là par la destruction de Jérusalem, comme un jugement de Dieu. Et Jésus dit qu'il y aura quand même des signes clairs de cela. Le seul signe qui est donné ici dans Luc, c'est l'armée qui va arriver. L'armée qui va investir Jérusalem. On apprend aussi qu'il va assiéger la ville. Mais à cette époque-là, les Juifs étaient convaincus, les Juifs qui étaient pieux et croyants en Dieu, étaient convaincus que Jérusalem ne pouvait pas tomber. C'était impossible. Donc, Jésus, finalement, est en train d'avertir ses disciples. Quand ça va arriver, là? Ne suivez pas le courant de la population qui croit que la ville est imprenable et qui sont prêts à prendre les armes parce que Dieu est avec eux. En réalité, c'est Dieu qui amène ces nations-là pour les punir. Donc, n'allez pas vous réfugier à Jérusalem. Sortez de là. C'est pour ça qu'il dit de fuir. Mais la plupart des Juifs vont vouloir trouver refuge à Jérusalem. C'est ce qui s'est passé. Mais Jésus dit qu'il y aura une grande détresse. Et même les personnes vulnérables comme les femmes enceintes vont être dans la détresse. Là. Parce que ça va être des jours de grand malheur. Mais tous ceux qui vont croire aux prophéties de Jésus vont s'en souvenir. Et ils vont sortir de là. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais on a écrit, les historiens, que les chrétiens de l'Église de Jérusalem ont fui et ont trouvé refuge dans une ville plus loin. Parce que Jésus avait averti que ceux qui vont rester là vont être soit tués, soit emmenés captifs. Et l'historien Flavius Joseph, qui a beaucoup écrit, là, c'est un historien, puis il a écrit 7 livres qu'il a appelés la guerre des Juifs. Et il raconte, lui, c'est plutôt du point de vue romain. Donc, il est un peu pro-romain, même s'il veut être impartial, mais il présente la défaite de Jérusalem comme une victoire pour Rome. Mais il décrit toute cette guerre-là, et il témoigne que... Bien, il témoigne d'abord de la splendeur de Jérusalem, de son temple, mais il montre aussi comment les Juifs se sont rebellés. Ils ont osé se rebeller contre César, et César a envoyé son armée avec le chef de son armée, Titus, qui finalement, puisqu'il a été victorieux, et il est devenu plus tard César lui-même, l'empereur Titus. Mais à cette époque-là, c'était le chef de l'armée. Et ils ont assiégé Jérusalem pendant de longs mois pour finalement l'envahir et la détruire. Et ils tuaient tout le monde, les enfants et les vieillards. Et si c'est vrai, ce que Joseph raconte, c'est qu'il y a eu 1,1 million de Juifs morts à Jérusalem. Donc, 1 100 000. Et 97 000, donc près de 100 000, ont été emmenés en captivité dans toutes les provinces de l'Empire romain, même jusqu'en Égypte. Donc, ce n'est pas un fait secondaire ce qui s'est passé là. Et la ville a été complètement détruite. Le temple a détruit. Et Jésus dit par là que c'est un jugement de Dieu pour avoir rejeté son Fils unique qu'il leur a envoyé. On se souvient de la parabole où le propriétaire de la vigne envoie des ouvriers qui se font tous violenter et chasser jusqu'à finalement, il envoie son Fils unique et il le tue. Donc, ils sont jugés pour cela, mais ils sont jugés en plus... Non seulement pour avoir rejeté son fils, mais pour continuer de faire souffrir son corps qui est l'Église. Ils ajoutent finalement à leur culpabilité en faisant souffrir ses disciples. Donc, c'est comme s'ils continuent à faire souffrir Jésus par son corps qui est l'Église. Dans 1 Thessaloniciens 2, on lit « En effet, vous êtes devenus, frères, les imitateurs des Églises de Dieu en Christ Jésus qui sont dans la Judée. » Car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, ce qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont hostiles à tous les hommes, et nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Et ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. C'est un peu mystérieux ici parce qu'on pense que Thessaloniciens a été écrit avant la destruction de Jérusalem, mais c'était peut-être un début de la colère de Dieu qui était évident. Mais on voit par les événements par la suite comment la colère de Dieu s'est déversée sur Jérusalem, la capitale de sa nation. Et Jésus dit que ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc les prophètes avaient prophétisé là-dessus, dans l'Ancien Testament. Mais ça ne s'arrête pas à la destruction de Jérusalem. Et ça continue, c'est pour ça que Jésus dit « jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis ». Et je comprends que nous sommes encore dans une période où finalement Israël subit le jugement de Dieu, où Dieu s'est tourné vers les nations. C'est encore la période des nations. Et c'est comme si Jérusalem est encore foulée aux pieds par les nations. Les nations qui sont utilisées par Dieu pour juger les Juifs, mais les nations qui sont aussi en même temps l'objet de l'amour de Dieu pour sauver parmi toutes les nations. Donc, c'est la période où, finalement, l'Évangile est annoncé à toutes les nations. Dans cette période-là, Dieu vise donc deux objectifs avec les nations. Juger les Juifs, mais sauver des âmes parmi toutes les nations. Et c'est la conclusion quand on arrive à la fin du livre des Actes. Donc, c'est peu de temps avant que le temple soit détruit, finalement. Mais Paul est à Rome et il présente l'Évangile. Il y a des Juifs qui sont là. Et comme ils se retiraient en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ces mots. « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dit, « Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur de voir de leurs yeux et d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir. en sorte que je les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Eux, ils l'écouteront. Bien sûr, il y a eu des Juifs qui se sont convertis à travers l'histoire. Il y a des Juifs messianiques. Mais ce n'est jamais la nation entière. Et il fallait, finalement, on comprend que le temple soit détruit pour que l'ancienne alliance prenne fin, que les sacrifices prennent fin. Parce que dans la nouvelle alliance que Jésus instaure, on va le voir la semaine prochaine, lorsqu'il institue la table du Seigneur, vraiment, il montre que c'est une nouvelle alliance qu'il conclut avec le peuple de Dieu. Et dans cette nouvelle alliance-là, il n'est plus question d'offrir des sacrifices d'animaux. Lui, Jésus, est offert en sacrifice une fois pour toutes. C'est pour ça qu'il meurt à la croix, pour payer, finalement, le prix des péchés de tous ceux qui allaient croire en lui, de toutes les nations. Du juif, premièrement, puis du grec, de toutes les nations. Mais il fallait que le temple soit détruit. Il n'était plus question non plus d'avoir un lieu central pour se réunir, pour aller adorer Dieu. Dans la nouvelle alliance, partout sur la terre où deux ou trois chrétiens sont assemblés, Jésus est là. Et on peut adorer Dieu en esprit et en vérité dans toute assemblée où des chrétiens sont réunis. Et je crois que cette période-là des nations dure jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que toutes les nations aient été évangélisées, jusqu'à ce que tous les élus soient sauvés. Après ça, qu'est-ce qui va arriver avec le peuple juif? Ça, on peut en débattre, mais je ne pense pas que le texte en parle ici. Mais les signes du jugement de Dieu sur le monde continuent de s'opérer, à commencer par le jugement sur Israël. Mais en même temps, c'est intéressant de voir que Dieu protège Israël de l'extermination. À plusieurs reprises dans l'histoire, lorsqu'un peuple a été victime d'un envahissement par un empire et qu'ils ont été expatriés, que leur ville a été détruite, et ils ont trouvé refuge ou ils ont été emmenés captifs dans d'autres nations, ils ont fini par être exterminés. Il y a de nombreux peuples qui ont été exterminés. Mais le peuple juif continue d'exister. Et même s'il est toujours sous le jugement de Dieu, il est en même temps, je pense, protégé par Dieu. Et un jour, le temps des nations va arriver à son terme. Le prochain événement que Jésus parle dans sa prophétie ici, c'est le retour du Fils de l'homme. Les grands signes qui vont annoncer son retour. Les grands signes dans le soleil, la lune, les étoiles, sur la terre, les mers, les flots, au point où ce que toutes les nations vont être dans l'angoisse. Donc, c'est plus qu'une inquiétude qui commence à être généralisée, là. C'est une terreur au point où ce que des gens vont mourir de peur. Il faut vraiment avoir peur pour en mourir. Une terreur où des gens vont rendre l'âme à cause de cela. On n'a pas connu ça encore. Et ça va être global sur toute la terre. Quand ça va arriver? Là, on ne sera plus en train de prétendre qu'on a eu une prophétie que la fin des temps s'en vient. Ça va être évident. Mais des gens vont penser que, finalement, le monde va s'écrouler. Mais les chrétiens, eux, ça, ils ne verront pas cela de même œil. Jésus dit, « Levez votre tête, regardez, parce que je m'en viens. » Pour nous, finalement, même si c'est des jours de grand malheur, ça sera une bonne nouvelle. Ça veut dire que le Seigneur, le Fils de l'homme, revient. Ce sera l'arrivée triomphale du royaume de Dieu, un royaume éternel, où le Fils de l'homme revient avec puissance, avec triomphe. C'est vrai que ça fait 2000 ans que Jésus a prononcé ces paroles-là, et les gens peuvent se moquer de cela. Puis il y a combien de faux prophètes qui ont annoncé que c'était la fin du monde? Encore récemment, il était supposé d'avoir la fin du monde en 27 janvier? Bon, on l'a manqué. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, les gens se moquent de cela. Mais Jésus prend la peine de dire, « N'oubliez jamais, mes paroles ne passeront point. » C'est sûr que ça va arriver. Et aussi sûr que les événements que Jésus a décrits avec une grande précision se sont déroulés à l'époque des premiers chrétiens. Les événements de la fin vont se dérouler. C'est sûr. Mais quand même, on vit dans un monde incrédule et Jésus nous avertit, « Gardez-vous, veillez sur vous, protégez-vous. » De quoi il faut se garder? Il faut se garder de s'endormir. Bon, ça arrive des fois qu'on est fatigué, là, comme ce matin. Mais ce qu'il veut dire, c'est que nos cœurs s'endormissent. finalement, qu'on devienne avec des oreilles bouchées, des yeux aveugles, qu'on n'entende plus. Et qu'est-ce qui peut causer cela? Jésus donne l'exemple des excès, de l'ivrognerie. Qu'est-ce que c'est, ça, les excès, l'ivrognerie? C'est finalement d'utiliser les bonnes choses, les plaisirs de la vie, mais avec excès, finalement, que ça devient presque notre but dans la vie, là. De s'enfoncer dans un plaisir de manière démesurée. Pour certains, c'est littéralement l'alcool. Et l'alcool peut vraiment nous endormir. Et finalement, ça occupe toutes nos pensées. Et à chaque jour, on a un souci qu'il faut absolument que j'aie ma dose. Pour d'autres, ça peut être toutes sortes de drogues. Mais pour d'autres, ça peut être des habitudes de vie, là. Même les loisirs. Toutes sortes de choses que finalement occupent toute notre pensée, devient une priorité dans notre vie, presque comme une idole, et nous fait oublier Dieu, malheureusement. Nous fait, même en tant que chrétien, nous fait refroidir, nous fait abandonner l'assemblée. On prend du recul un peu, on se détache, on ne sent plus le besoin d'être avec des frères, et finalement, on abandonne. D'autres, c'est par les soucis de la vie, les soucis qu'on a tous en commun, là, de devoir travailler, parfois les relations interpersonnelles qui peuvent être un souci, de penser à sa retraite quand on est un peu plus vieux, puis des fois, ça peut occuper trop de place dans notre vie, là, ces soucis-là. Ou juste d'avoir une maison, un lieu pour habiter. Mais tous les soucis de la vie peuvent nous accaparer tellement, l'esprit, là, qu'on oublie, finalement, Dieu. On oublie Jésus, s'en vient. Le risque, finalement, dit Jésus, c'est d'être pris à l'improviste lorsqu'il va revenir. On ne connaît pas le jour où il va revenir. Et si on est surpris, en fait, c'est finalement quand Jésus arrive et on n'est pas prêt. On était loin de Dieu et on est trouvé infidèle. Et Jésus l'a dit que celui qui est un véritable enfant de Dieu, là, c'est la marque d'un vrai enfant de Dieu qui sera sauvé, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin. C'est la fin, finalement, qui compte, là. C'est pour ça qu'il nous invite à veiller et à prier en tout temps. Une rencontre par semaine où est-ce qu'on peut se réunir là, pour louer le Seigneur, étudier sa parole, c'est pas trop. C'est même, je dirais, le minimum. Ça prend pas beaucoup de journées pour qu'on risque d'oublier le Seigneur. Même, il me semble que de se rencontrer en milieu de semaine là, dans un groupe de quartier, là, c'est très bon. C'est d'ailleurs la raison principale pour qu'on se réunit en semaine, ceux qui se réunissent. C'est pour rester chaud pour le Seigneur, là, de veiller, de prier, de s'encourager, de se dire, il faut pas oublier, là, Jésus revient. D'autres se réunissent dans d'autres groupes, entre jeunes ou les sentinelles le samedi matin. Il y a plusieurs occasions. Je sais que certains même prient par Internet, là, en vidéoconférence, où ils ont des rencontres à l'université ou au travail avec d'autres chrétiens. Mais c'est important de ne pas décrocher, pas se penser fort et à l'abri d'oublier le Seigneur. Et ce que Jésus nous demande, c'est pas juste de ne pas renier le Seigneur. C'est de veiller et de prier. Donc, des actions qu'il faut prendre pour rester sur nos gardes. Le but, c'est d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Parce que ce qui arrive, finalement, c'est des épreuves. Ça vient tester notre foi. Et ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui n'ont pas véritablement un cœur attaché au Seigneur, tombent. Et finalement, les épreuves de la fin là, vont servir à filtrer les élus de ceux qui ne sont pas des vrais élus. Donc, la question est toujours remise devant nous. Es-tu véritablement un enfant de Dieu? As-tu vraiment donné ta vie au Seigneur? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Si oui, mais retourne à lui, veille, prie, et tu peux t'assurer que le Seigneur Dieu va te garder persévérant jusqu'à la fin. Il est fidèle. Il ne va pas t'abandonner. Et nous connaîtrons peut-être cette fin des temps, mais je ne sais pas. Peut-être que ça n'arrivera pas de notre vivant non plus. Mais on aura tous finalement à passer l'épreuve de la fin de notre vie. Et pour chacun de nous, c'est différent, mais on a tous cette épreuve-là à passer. Est-ce qu'on va bien terminer notre vie ou non? Est-ce qu'on va rougir devant le Seigneur ou on va pouvoir se tenir debout devant le Fils de l'homme? Donc finalement, ce que les premiers disciples ont vécu, et ce qui a été suivi par la destruction de Jérusalem, ça a permis l'établissement de l'Église. Donc, finalement, c'est ce grand malheur-là pour le peuple de Dieu, là, c'était pour le bien, finalement, de l'humanité. Donc, Dieu produit le bien comme le mal, mais en bout de ligne, tout est pour le bien. C'est toute une bonne chose parce qu'on a un bon Dieu. Et ça a permis l'établissement de l'Église, ça a permis la rédaction du Nouveau Testament aussi qu'on a entre les mains, le salut des nations. Et ce qui s'est passé nous assure que ce qui est annoncé va arriver, va réellement se passer. Donc, on peut avoir confiance en Dieu, comme il a pris soin des disciples de Jésus. Toutes les délivrances, toute la protection qu'il leur a donnée. Mais il va prendre soin de nous. C'est le même Dieu, c'est le même Jésus-Christ. Et comme il a utilisé la souffrance de ses serviteurs pour mener les premiers chrétiens au salut, mais il utilise aussi notre souffrance pour nous mener au salut. Ça fait partie du cheminement que Dieu veut qu'on passe pour nous sauver. Pour nous mener à la perfection. Et il a permis que des chrétiens persévèrent jusqu'à la fin, même à travers les pires souffrances. Certains ont abandonné, oui, Paul en témoigne, que plusieurs l'ont abandonné pour le siècle présent. Mais Dieu a permis, comme par son intervention divine, que plusieurs persévèrent jusqu'à la fin. On en a le témoignage. Mais il le fait avec nous aussi. Et c'est bon de voir des témoignages comme Mme Kerr, qui est décédée cette semaine, et on va pouvoir célébrer ses funérailles la semaine prochaine. C'est une tristesse, mais on peut appeler ça quand même une célébration, parce que c'est sûr qu'elle est dans les bras de son Seigneur. Là. Elle est accueillie en haut. Des témoignages d'une vie d'espérance en Dieu. Mais pour cela, pour y arriver, il faut veiller et prier. Amen.